Interview.
1 Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc-en-Diois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Pascal Baudin. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Baudin, vous êtes maire de Bellegarde en Diois. Vous êtes aussi également vice-président en charge de l'eau auprès de l'intercommunalité du Diois et aussi vice-président du SMRD ainsi que du comité local de l'eau. Alors le SMRD, syndicat mixte de la rivière Drôme. Et auprès de vous, Claire Petitjean, bonjour.
Bonjour.
Claire, vous êtes en charge de la mission de révision du SAGE, donc, c'est-à-dire...
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Merci, je l'avais noté mais je ne l'ai plus sous les yeux. Et donc vous êtes ici pour nous parler d'une synthèse du diagnostic, d'envisager le programme à venir pour cette gestion de l'eau et particulièrement pour la rivière Drôme. Pour ça, Monsieur Baudin, vous êtes en charge, donc justement auprès de la CCD, en charge de l'eau. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a effectivement la Drôme, mais il y a aussi le Bouëch et l'Elgue.
Alors effectivement, nous, au niveau de la communauté de communes du Diois, on est concerné par trois rivières. Hein, donc la Drôme, la partie Bouëch sur l'Usse-la-Croix-Haute et puis la partie Aigue à partir du col de Prémol et jusqu'à Orange. Donc aujourd'hui, on est principalement concerné par le sujet Drôme. Claire l'a dit, elle s'occupe du schéma d'aménagement et gestion de l'eau, donc le SAGE, qui a été écrit en 2017-2018. Et qui est en phase de réécriture. Et lors de la réécriture de ce SAGE, donc des programmes qui vont s'appliquer pour les années à venir, on avait souhaité joindre une étude prospective eau 2050. Hein. Tout le monde aura remarqué que depuis quelques années, on a quand même un problème d'eau sur la région et que ce problème quantitatif nous semblait être primordial à aborder de façon à voir quelles étaient les actions qu'on mettait en place pour les années à venir.
Claire, donc vous êtes en charge de cette révision du SAGE et pour cela, qui date de 2017, comme M. Baudin disait, est-ce que cette situation évolue sans cesse et de plus en plus rapidement ?
Oui, on peut le confirmer. Le sujet de l'eau se perfectionne chaque année parce qu'on dispose de meilleurs outils de suivi d'une manière et puis d'une certaine manière. Et aussi, on a une évolution du climat et de l'hydrologie qui s'accélère un petit peu ces dernières années et les réactions des usages et des usagers qui peuvent être en conséquence. Donc on est sur un système qui est clairement dynamique. Alors on peut se demander pourquoi on a pu l'imaginer figé finalement, parce qu'il a sûrement évolué de tout temps, mais là on a une forme d'accélération ces dernières années, avec l'arrivée notamment de sécheresses de plus en plus intenses.
Alors, cette réunion du diagnostic du 27 janvier a pour vous permis de confirmer ces observations et est-ce que cela... Ça l'a induit quelle politique assez rapidement ?
Alors dans un premier temps, je dirais que c'est pas une politique. Pour l'instant, c'est un état des lieux. Un état des lieux avec des impacts sur les différents utilisateurs, que ce soit les communes d'un point de vue quantitatif et qualitatif, puisqu'on voit qu'il y a des répercussions sur le qualitatif, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour les industriels, que ce soit pour le tourisme. Il y a effectivement des choses qu'il va falloir faire. Donc derrière ce diagnostic, qui a été partagé par tous, puisque ça a été approuvé en commission locale de l'eau plénière, donc il va falloir engager maintenant des actions pour pallier à ce diagnostic.
Je voudrais amener un peu de pédagogie. On utilise des acronymes. Le comité local de l'eau, le CLE, on peut peut-être signifier son rôle auprès des auditeurs.
La commission locale de l'eau, donc la CLE, on l'appelle régulièrement, s'adjoint à un SAGE, c'est-à-dire que tous les territoires en France ne bénéficient pas d'une CLE ou d'un SAGE. On a la chance sur ce territoire d'être à la fois la première CLE, commission locale de l'eau, historiquement. Et c'est un outil avant tout de concertation. Elle réunit les usagers, les représentants de l'État, les représentants des collectivités autour de certaines réunions, de groupes de travail qui permettent d'assurer un dialogue entre les différents corps de métier et les différents acteurs.
Le CLE donc est en charge de veiller à la tenue des rivières. Quelle est son action sur le terrain?
La commission locale de l'eau, elle est en charge d'assurer l'espace de concertation. Elle est l'outil de concertation pour le SAGE. Le SAGE, lui, est la feuille de route qui est validée en commission locale de l'eau, qui a pour objectif d'avoir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Et c'est bien l'objectif de cette feuille de route locale.
Et donc, c'est la communauté de communes du Diwa qui est en charge aussi d'appliquer un peu les corrections ou du moins d'amener de nouvelles manières d'opérer.
Alors d'abord, ce n'est pas que la communauté de communes du Diwa, puisque le syndicat mixte Rivière Drôme, donc, qui pilote la commission locale de l'eau, c'est avant tout le financement de 3 intercommunalités, la CCVD, la 3CPS et la communauté de communes du Diwa, donc regroupée sur le bassin versant de la Drôme, et le département qui abonde aussi au fonctionnement du syndicat mixte Rivière Drôme. Donc c'est tous ces partenaires-là qui mènent cette étude de front pour effectivement préparer et corriger par rapport à notre comportement sur l'eau pour les années à venir.
Alors, il y a un aspect aussi du Diwa typique, c'est un territoire très diversifié, hein, que ce soit en relief, en plaine ou en vallée. Et il y a aussi une gestion qui est opérée depuis pas mal d'années. Et cela a permis d'ailleurs peut-être d'amoindrir ces problèmes.
Effectivement, il y a tout un tas de programmes qu'on mène au niveau de la communauté de communes du Diwa, hein, que ce soit beaucoup d'actions vers les communes, hein, les contrats de progrès qu'on a avec l'agence de l'eau, c'est-à-dire que au niveau des communes, dès 2016, on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas d'actions, tout un tas de non-actions plutôt sur l'eau, c'est-à-dire pas bien de surveillance au niveau quantitatif, puisque toutes les communes n'étaient pas équipées de compteurs, tous les particuliers n'avaient pas des compteurs. Donc il y a eu un très gros travail de fait pour essayer de gérer le quantitatif, essayer de gérer les réseaux qui étaient vraiment très fuyards, donc des gros programmes d'action avec l'agence de l'eau, avec le département, avec l'État, pour effectivement raisonner, travailler sur le quantitatif, travailler aussi sur l'assainissement pour que effectivement cette eau utilisée soit collectée, traitée et restituée au milieu. Donc il y a tout un travail qui a été fait depuis 2016, depuis.
Et sur cette expérience, vous avez pu noter peut-être des améliorations encore à amener pour cette gestion en temps normal, hein, puisqu'on n'a pas encore abordé l'aspect climatique.
Oui, alors historiquement, c'est vrai qu'à l'échelle bassin versant, tout comme dans le Diwa, on avait une problématique beaucoup de qualité liée à l'assainissement des eaux usées, notamment domestiques. Et puis, petit à petit, l'enjeu quantitatif qui était déjà présent dans les années 80, s'est renforcé d'année en année, notamment avec des prélèvements qui augmentaient de par les usages, et puis à la fois, de manière conjuguée, un climat qui se tend vers une forme d'assèchement, donc une diminution des débits qu'on observe déjà depuis bien 10 ans, et puis une augmentation des températures qui pousse à une forme d'assèchement du climat.
Monsieur Baudin, vous êtes maire de Bellegarde en Diwa. Il me semble que l'année précédente, vous avez dû avoir recours à un approvisionnement en eau.
Alors non, la ressource en eau a été suffisante pour la commune, mais elle a été très tendue. C'est-à-dire que nous, on a 2 sources à Bellegarde. On a le village proprement dit, et puis on a un hameau qui est un peu au-dessus, un hameau de Montléuc. Et sur ce hameau, effectivement, on a connu un déficit quantitatif assez important. Donc il a fallu que je procède à des relevés de compteurs régulièrement, de façon à sensibiliser les gens à cette baisse de débit. Et les gens ont répondu présent, puisque on a fini l'été quand même relativement confortablement, avec un quantitatif haut qui a suffi. Mais il a fallu que les gens changent de comportement. Et je pense que face à une crise comme ça, les gens sont capables de changer de comportement à titre individuel.
Ça, c'est l'aspect du particulier que vous mettez en avant. Il y a aussi l'agriculture avec un besoin d'eau nécessaire. Est-ce que là aussi, il y a une sensibilisation à opérer dans la vallée de la Drôme ?
Alors, au niveau de l'irrigation, c'est principalement l'aval hein, qui irrigue beaucoup. Nous, dans le côté haut de la vallée de la Drôme, il y a un peu moins d'arrosage, mais effectivement, dans les années à venir, on va avoir un problème quantitatif. Hein. On le dit depuis longtemps, le milieu a besoin d'une quantité d'eau pour effectivement continuer à vivre. Donc, il y a ce qu'on peut prélever. Et ce qu'on peut prélever aujourd'hui, on a tendance à prélever plus que ce qu'on devrait avoir le droit de prélever. Donc il y a effectivement des choses à faire d'un point de vue agricole. Mais on fait passer les informations. L'État est là pour mettre aussi des comités sécheresse pour savoir quelles sont les dispositions à prendre. Et les choses se font.
L'aspect de la température qui augmente de plus en plus chaque année, ça a un impact aussi sur l'évaporation, sur l'eau par évaporation. Est-ce que les terres, justement, finissent par en partir ? On a vu aussi des cas de lézards apparaître sur des bâtiments dus à l'assèchement des terres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'observe ?
Il est clair que la tendance en contrainte de changement climatique, c'est une augmentation de température. Et par le fait, ça va augmenter l'évapotranspiration, donc à la fois la transpiration des lacs ou des zones en eau, et puis la transpiration des végétaux, l'évaporation et la transpiration. Donc du coup, on va vers un assèchement à la fois des sols et des besoins en eau, des cultures beaucoup plus forts. On voit dans les projections, donc là, l'étude qui est en cours, c'est l'étude Sage-Drôme 2050 qui vise à élaborer une stratégie d'adaptation à l'horizon 2050 sur le territoire pour le changement climatique. C'est ce qu'a demandé la CLÉ récemment, donc il y a un an, de renforcer et réaffirmer le volet changement climatique de notre feuille de route locale qui est le SAGE. On avait déjà un volet changement climatique, mais la commission locale de l'eau, notamment les élus, ont souhaité renforcer de par cette étude, et c'est l'étude que nous avons engagée. La phase diagnostique montre plusieurs points. Déjà au niveau hydrologique, donc on utilise des modèles hydroclimatiques, des modèles qui sont utilisés soit par le GIEC ou par d'autres institutions, et on essaie de relocaliser la donnée. C'est ni plus ni moins la donnée GIEC, mais qu'on arrive à relocaliser et qu'on annexe à un modèle hydrologique pour voir un petit peu les conséquences que pourrait avoir le territoire en termes de changement climatique sur l'hydrologie, mais aussi sur les milieux aquatiques et sur les usages si on ne changeait rien. Donc c'est un petit peu ce que montre ce diagnostic qui a été livré en clé et qui est désormais disponible sur notre site internet à tout à chacun. Et évidemment, donc, le contexte climatique, c'est une augmentation de 1,6 degré, par exemple, à horizon 2050. 1,6 degré, ça parle ni plus ni moins à personne. Les horizons, les repères qu'on peut se donner, c'est qu'entre aujourd'hui et par exemple une ère glaciaire où vivaient des mammouths, c'est 4 degrés qui nous séparent. Donc on voit déjà, ça donne un petit ordre de grandeur du changement brutal que pourrait avoir notre écosystème, nous et tout l'environnement autour et les paysages. Donc c'est vrai que c'est des points, des données qu'on entend régulièrement, mais on mesure un petit peu moins l'impact et on ne le connaît pas en fait. Et c'est quelque chose qui va nous réunir aujourd'hui, c'est que qui que l'on soit, en fait, de l'amont ou de l'aval, agriculteur ou non, en fait, on est tous face à quelque chose qui est assez important en termes de changement. On a tous besoin de souplesse et d'adaptation et on ne connaît pas ce à quoi on fait face. Donc, on doit ensemble essayer de trouver des solutions les plus souples, avec souplesse pour s'adapter et puis essayer d'encaisser un petit peu les changements brutaux ou non qui sont en train de se dessiner. Mais on le voit déjà sur les dernières années, au niveau hydrologie, on a baissé les débits au niveau de Saillant d'une manière assez importante et ils vont continuer à baisser de manière très importante. Donc on voit que ça peut menacer à la fois l'irrigation, s'il n'y a pas de changement, l'approvisionnement en eau potable et puis le tourisme tel qu'il est dessiné aujourd'hui. Donc c'est bien le cadre de cette étude de Sage Drôme 2050. Là, on entre dans une deuxième phase qui est celle de la concertation. On invite secteur d'activité par secteur d'activité dans un premier temps, donc agriculture, urbanisme et eau potable, tourisme et puis industrie. Et puis un atelier dédié au milieu naturel pour tous les gestionnaires des paysages aussi, de se réunir entre eux pour déjà recueillir les réactions et échanger sur ce diagnostic et puis explorer les possibles de demain, les voies d'adaptation, qu'elles soient stratégiques, financières ou économiques. Et puis un deuxième temps sera dédié aussi à travailler tous ensemble, donc secteur avec l'agriculture, avec l'eau potable, avec l'industrie et avec le tourisme. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette ressource actuellement disponible, qui est un petit peu condamnée en termes de volume. Alors déjà, à volume actuel, on a du mal à partager correctement le volume. On est déjà dans une surexploitation, comme l'a dit Pascal. Aujourd'hui, il est défini des volumes que l'on pourrait prélever sans contraindre trop fortement les milieux naturels. Ils sont largement dépassés pour tous les secteurs, pas seulement pour l'agriculture, mais aussi pour l'eau potable. On l'a dessiné récemment. Et puis, horizon 2050, ça sera une augmentation des besoins en eau beaucoup plus importante, comme on l'a dit. Par exemple, l'étude montre qu'à assolement constant, donc si on ne change pas les cultures actuellement, et sans faire entrer de nouvelles cultures irriguées, comme pourrait l'être la vigne ou le noyer demain, eh bien, on a 35% en plus de besoins en eau à horizon 2050. Sachant qu'aujourd'hui, on utilise déjà trop d'eau. Donc on voit tout de suite le dessin de ce qui nous attend. Maintenant, il faut ensemble essayer d'adapter, trouver des solutions. Toute bonne solution est à prendre. Il n'y en aura sûrement pas une, mais plusieurs. Et c'est tout l'enjeu en fait, de cette démarche qui est en cours et puis de ce qui nous réunit aujourd'hui.
Vous travaillez sur le terrain aussi pour vous forger une certitude sur cette gestion. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont à développer, qui semblent intéressantes pour l'eau, si parfois il y a des personnes qui produisent ou qui créent un système, je ne sais pas. Et à savoir aussi... Est-ce qu'il y a des choses à remédier aussi également au niveau de cette gestion, de cette consommation? Est-ce qu'il y a peut-être, je reviens sur l'agriculture, mais il y a des champs céréaliers qui sont très gourmands d'eau. Est-ce que ça aussi, c'est une réflexion qui est abordée pour peut-être ralentir cet assèchement de rivières?
Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment... À la veille des concertations, je crois que le gros l'enjeu, c'est pas de pointer un tel ou un tel. Je crois que au niveau du partage de l'eau, on doit vraiment tous se réunir. C'est pas le premier arrivé, premier servi. Ça sera vraiment un dialogue entre les personnes, savoir ce qu'on peut mettre en place. Donc moi, je dirais que dans la hiérarchie des actions, il y a ce que les communes vont mettre en place pour effectivement économiser l'eau. Comment est-ce qu'elles vont mettre en place pour sensibiliser les gens. Il y a effectivement l'agriculture qui devra se mettre autour de la table aussi pour savoir quelles sont effectivement les priorités éventuelles dans l'arrosage, c'est-à-dire ce qui va être consommé local, ce qui est du maraîchage, voilà, arriver à déterminer un certain nombre d'actions. Au niveau du tourisme, pareil, cet été, on a vu pour la première fois l'activité canoë-kayak qui s'est arrêtée. Donc, ça veut dire que le tourisme va devoir s'adapter dans l'avenir. Donc il y a tout un tas de personnes qui vont devoir s'adapter. Moi, ce que je trouvais important, c'est que Claire l'a bien dit, ce document, il est consultable sur le site du SMRD. On a vraiment voulu à ce que ce document il soit lisible, c'est-à-dire qu'on évite de rentrer dans des termes techniques. Donc je pense que ce document, il est à la portée de beaucoup de monde et qu'il faut vraiment s'en imprégner. Alors on peut le trouver peut-être optimiste ou pessimiste, je ne sais pas. Il a l'avantage, c'est d'être un état des lieux et que si on ne fait rien, on ne peut pas vouloir prélever 150 quand on n'a que 70 de disponibles.
Il y a quand même, vous dites, de ne pas forcément cibler un secteur ou des personnes, mais il y a quand même des choses qui vont devoir se faire. Est-ce qu'il y a des réflexions quand même là-dessus?
La première des réflexions moi, qui me vient un peu à l'esprit, c'est un petit peu l'urbanisme. Hein. On est dans le cadre de la communauté de communes où on va réviser notre plan local urbaniste intercommunal. Enfin, on ne va pas le réviser, on va le mettre en place. La réflexion à l'urbanisme, on va automatiquement l'avoir. On ne va pas pouvoir installer des gens sans avoir la réflexion du quantitatif.
J'ajouterais que le problème quantitatif de ce territoire, il a été reconnu dès les années 80, avec notamment un classement en zone de répartition des eaux. Ce sont des zones reconnues nationalement comme des zones qui ont un déficit chronique, c'est-à-dire régulier en eau. Et donc ça, c'est quelque chose de connu depuis les années 90, qui ont enclenché directement une structuration du territoire et des mesures, notamment envers l'agriculture, qui est le plus gros préleveur en été, depuis les années 80. Donc, je dirais le secteur agricole, c'est le secteur qui est aujourd'hui a montré une organisation assez, je dirais, exemplaire face à cette contrainte, parce que c'était les premiers qui ont subi en fait les premières restrictions, notamment avec le gel des surfaces irriguées, donc le non-développement de l'irrigation sur ce territoire comparé à d'autres territoires. Et évidemment, les efforts sont à poursuivre. Il y a eu la recherche de substitution, notamment avec l'arrivée de l'eau du Rhône, mais aussi de l'Isère. Donc il y a eu des investissements assez forts dans le secteur agricole. Et ce que peut montrer par exemple cette étude, c'est que pour ce secteur, les efforts qui sont attendus d'ici 2050 sont du même ordre de grandeur que ceux qui ont été réalisés depuis les années 80. Donc on a monté une première marche, il y en a une deuxième à gravir. Et voilà, c'est juste qu'après, pareil, par rapport à, je réagis sur la question des semences ou de l'agriculture et des céréales, mais comme l'a dit Pascal, l'enjeu est de vraiment pas opposer les usages, et sachant qu'en plus, ils sont tous liés. Les céréales qui poussent sont aussi liées à notre alimentation, de la manière dont on mange toujours. Donc si aujourd'hui du maïs peut être présent sur le territoire, il est avant tout dédié à l'élevage. Donc on voit bien derrière quels sont les enjeux aussi, nous, en tant que consommateurs. Donc il y a aussi des leviers qui sont plutôt indirects sur l'agriculture possible, comme on le montre d'autres structures par rapport à notamment notre consommation de viande à diminuer à horizon 2050 pour avoir une influence sur le climat. Donc c'est des liens qui sont aussi à faire régulièrement. Mais je dirais que pour le secteur agricole, c'est un secteur qui bénéficie de beaucoup de contrôles, qui a eu beaucoup d'efforts réalisés, et il y a des efforts importants à réaliser encore.
Et il y a aussi cet aspect de l'agriculture, avec parfois des plantes qui sont plus hydrophages que d'autres. Là, il y a une proposition de planter plutôt du sorgho, qui est moins gourmand en eau, avec quand même une perte de bénéfices pour le producteur quand même. Est-ce qu'il y a justement tous ces aspects financiers, économiques, qui sont pris en compte aussi pour essayer d'établir une alternative?
Alors chez nous, non, parce que ce n'est pas notre domaine de compétence. Nous travaillons sur les milieux aquatiques. Par contre, là où on va exprimer et amener de la connaissance, c'est quel est le poids des prélèvements des différents usages, pas seulement agricoles, mais aussi industriels et pour l'eau potable, sur les milieux naturels. Par rapport à l'exemple du sorgho, l'exemple agricole montre que cette expérimentation a été conduite dans l'aval du bassin, et on a des problèmes par exemple d'ambroisie sur le territoire, ce qui fait que le sorgho n'est pas facilement vendable en termes de qualité comme il peut l'être sur d'autres territoires pas sujets à l'ambroisie. Donc c'est des sujets qui sont évidemment, j'imagine que en tant qu'agriculteur, ce sont les premiers qui subissent les restrictions qui sont importantes. Il y a eu des coupures de réseau l'été dernier, et donc évidemment j'imagine que tous les agriculteurs se posent ce genre de questions, et après c'est à chacun d'être dans son cœur de compétence.
Monsieur Baudin, il y a aussi l'aspect de l'urbanisation, hein, vous en parliez un peu tout à l'heure. Le Diwa s'est énormément développé au niveau démographique, ce qui a induit aussi des nouveaux aménagements d'habitation. Est-ce qu'il y a aussi cette augmentation de population qui impacte sur l'accès à l'eau?
Automatiquement, hein, c'est un petit peu mathématique. Alors, moi, je suis pas forcément, j'ai pas la casquette urbanisme au niveau de la communauté de communes, mais je sais que si j'ai la réflexion auprès de ma propre commune, je sais que là où je suis en tension, si je mets des maisons en plus, j'ai automatiquement des consommations en plus, sauf si effectivement les gens changent de comportement, mais ça de toute façon, ça sera un passage obligé. Moi, je pense que dans ce genre de programme, c'est pas des petites mesures qu'il faut prendre, parce que on s'aperçoit que le déficit hydrique, si on prend des petites mesures, on sera toujours en retard par rapport à ce déficit hydrique. Il y a vraiment un virage à opérer là, si on veut un peu devancer tout ça. Et je pense qu'il en va un peu de notre avenir dans cette région. Hein. Si on veut que nos enfants, petits-enfants, continuent à voir couler la rivière et qu'il y ait une vie dans la rivière, je crois qu'on se doit de changer beaucoup de choses.
Alors, on arrive aussi, suite à cette réunion du 27 janvier, à des ateliers de concertation qui vont se dérouler, ou qui ont commencé peut-être déjà, de fin février à mi-mars, et puis une autre en automne de cette année. Ce sont des ateliers de concertation qui permettront de réunir les acteurs des secteurs d'activité, ainsi que l'agriculture, l'eau potable, l'urbanisme, tourisme, industrie et milieu naturel. Donc, tous ces représentants seront présents. Et comment seront procédés justement ces ateliers?
Disons que là, il s'agit de mobiliser presque 200 acteurs autour de acteurs qui ont un impact sur l'eau sur le territoire et qui ont des leviers en fait d'adaptation pour demain. Donc là, c'est deux sessions de concertation, parce qu'on sent bien que les solutions sont bien dans les mains des différents acteurs et qu'il va falloir croiser les différents regards. Donc on espère dans un premier temps déjà de collecter les réactions de diagnostic et les premières explorations de comment on peut individuellement puis collectivement adapter les trajectoires d'évolution. Donc c'est adapter en fait son business plan, adapter l'économie de son industrie ou de son exploitation. Et puis, à l'automne, là, il s'agira vraiment de marquer collectivement un plan d'action à mettre en œuvre sur le territoire avec vraiment un engagement de changement. Donc là, c'est une dynamique de projet qui cherche à favoriser le changement. Donc on est vraiment dans cette dynamique. On a pris des acteurs, donc c'est des acteurs qui ont été sélectionnés via le comité de pilotage et puis le bureau d'études qui nous accompagne. Dans l'idée, 2050, on se dit que c'est pas un programme qui forcément va parler à tout le monde. Là, on cherche à avoir vraiment les têtes de filière qui ont besoin d'adapter leur travail à horizon dans 10 ans ou dans 20 ans et pouvoir programmer ensemble les politiques publiques et privées dans ce contexte.
L'Actéon, CEREG, c'est justement ce partenaire qui co-gère cette révision.
Oui, alors c'est le groupement qui est en charge de l'étude, qu'on a mandaté pour l'étude. Donc c'est bien un croisement entre les sciences dures et sciences humaines. C'est ce qu'on cherche à travers ce programme, c'est qu'à la fois la première étape, qui est la pièce maîtresse, c'est ce diagnostic, qu'on puisse se partager, et c'est ce que voulait la Commission locale de l'eau en 2021. C'était déjà de partager les ordres de grandeur des impacts du changement climatique sur le territoire, donc d'avoir déjà une bonne information collective. Et puis, dans un deuxième temps, c'est d'initier ce qu'a souhaité la commission locale, d'initier ou soutenir, si elle existe déjà, une dynamique collective d'adaptation. Et clairement, c'est ce qui va être mis en œuvre lors de ces ateliers de concertation.
Notamment le tourisme, en quoi serait déclinée cette action auprès du tourisme?
Le tourisme... Classiquement, là, l'étude dans le diagnostic montre les impacts sur l'hydrologie et les différents usages sans changement. Donc pour le tourisme, on voit qu'à horizon 2050, il y a des risques de dégradation à la fois de la qualité et on aura des débits qui pourront être insuffisants pour la pratique notamment du canoë ou de la baignade. Donc dans ce contexte, nous ne sommes pas acteurs du tourisme, donc c'est pour la raison pour laquelle on cherche à mobiliser à la fois l'hôtellerie de plein air, donc les campings, à la fois les loueurs de canoë, et puis pas seulement tout ce qui est en lien avec le tourisme, tous les acteurs en lien avec le tourisme, pour qu'ensemble on puisse échanger de qu'est-ce que ces données peuvent amener comme réaction, comme adaptation sur la filière, sur la proposition commerciale du tourisme dans la Drôme, et comment on peut déjà anticiper ce virage et le mettre en œuvre.
Vous parlez des acteurs liés, à peu près 200 personnes qui sont liées à ces ateliers. Le public ou l'habitant, lui, sera-t-il aussi consulté?
Alors, il ne sera pas convié. Là, le public, l'enjeu, c'est déjà de partager ces informations. Il est plutôt sollicité par d'autres programmes que le SMRD met en œuvre, notamment le programme Écodrome, qui est mis en œuvre pour les économies d'eau. Donc là, c'est vraiment un programme qui va être dédié au grand public avec des actions dans les différents territoires du bassin versant pour favoriser les économies d'eau. Donc il y aura une distribution de kits hydroéconomes pour les foyers avec des outils et des retours d'expérience, d'expérience qui mettent en œuvre des économies d'eau facilitantes.
Ces actions mises en œuvre à préparer nécessiteront des financements. Est-ce que ça, c'est un aspect qui n'est pas encore observé, ou alors est-ce que vous avez des pistes de financement possibles?
Alors, sur les deux voies d'action, par exemple sur le programme Écodrome, là, en termes de financement, on a un petit temps qui est dédié pour le grand public, donc 2-3 ans, où on a une grande sensibilisation, plus du financement pour distribuer des kits hydroéconomes. Donc là, c'est quelque chose qui est plutôt calé. Sur la partie changement climatique, horizon 2050, il sera évident qu'il y aura des besoins financiers, et c'est tout, je crois, l'enjeu du changement climatique, c'est que ça fait émerger des besoins financiers colossaux, on peut dire, hein, importants, qu'aujourd'hui, nos territoires ne me semblent pas à la hauteur de fournir.
Le contrat de progrès, par exemple, qu'on mène dans le Diois, c'est 9 millions de travaux sur de l'amélioration de réseaux dans les communes, hein, que ce soit les fuites, que ce soit l'épuration, des choses comme ça. Donc c'est bien des financements qui sont aidés par l'Agence de l'eau, par le département, par l'État, pour qu'effectivement on puisse, au niveau des communes, faire des économies.
Je voulais juste aussi informer les auditeurs qu'il y a un excellent document aussi sur le site de l'intercommunalité sur l'eau et les reliefs du territoire.
C'est le document du PLU, alors, oui.
Voilà, c'est ça. Oui. Et c'est très bien documenté aussi pour donner une idée de...
Ben, c'est toutes ces réflexions qui sont mêlées, c'est toutes ces réflexions qui sont menées un peu tous ensemble, hein, puisque je dirais qu'au niveau de la des vice-présidences de l'intercommunalité, on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui sont transversaux, c'est-à-dire que chacun effectivement a une casquette. Donc moi j'ai la casquette eau, mais ça ne peut pas être différencié de l'urbanisme, ça ne peut pas être différencié de l'agriculture, donc automatiquement on a des choses transversales qui se passent.
Claire Petitjean, est-ce qu'il y a un mot encore à dire peut-être sur la gestion de l'eau pour tout habitant? Est-ce que vous auriez une chose à dire?
Si c'est un mot, c'est un défi. Pour moi, c'est un vrai défi collectif. Donc ça, c'est un deuxième mot. Autour du partage et de l'adaptation, clairement. Après, je ne sais pas... C'est un défi auquel on fait face. Il me semble pas être. Enfin, moi personnellement, je me sens pas pessimiste par rapport à tout ça. Je pense que clairement, il y a des solutions à trouver ensemble. Il y a surtout des représentations à faire tomber. Et c'est tout l'enjeu du phénomène d'adaptation.
Monsieur Baudin, vous, en tant que maire de Bellegarde-en-Diois.
Moi, je prends souvent l'exemple de la rivière. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, la rivière était une poubelle. Les communes n'avaient pas beaucoup de stations d'épuration. On avait même des décharges en bord de rivière, hein. Donc il a fallu 40 ans pour qu'aujourd'hui on ait quelque chose de qualité. Donc je pense que cette éducation à l'eau va mettre un certain nombre de temps pour aboutir, mais on y arrivera. Moi, je pense que ça va passer par les écoles, ça va passer par les écoles d'agriculture aussi, ça va passer par tout un tas de petites chaînes comme ça qui vont se mettre en place, et le défi, effectivement, on va le relever.
Claire Petitjean, je vous remercie, et ainsi que Monsieur Pascal Baudin, d'être venu sur Air Diois pour nous parler donc de ces ateliers de concertation mis en place auprès des acteurs du territoire. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Merci pour l'accueil.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.